Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM et c'est Zoom Écologie. Aujourd'hui, un thème qui nous tient à cœur, qu'on essaie de traiter régulièrement dans Zoom Écologie, qui est celui de la logistique et de l'organisation du territoire de façon à transporter toutes les marchandises qui sont produites partout dans le monde et qui arrivent à Paris. Alors on y a pensé pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a ce projet Green Dock dont on va parler, qui est un projet d'entrepôt à Gennevilliers, un énorme entrepôt. Et voilà, qu'on a vu passer depuis quelques temps, on disait qu'on allait en parler. Et aussi, l'autre élément, c'est que, il y a cette menace de bloquer la France et de bloquer Paris et son alimentation. Et on comprend bien par les agriculteurs, donc. Et on voit bien ici la centralité, presque géographique et donc politique de ces questions de logistique et de distribution. Pour parler de ceci, autour du projet Green Dock, on reçoit Cibou et Damien, qui sont donc deux militants qui font partie de Pleine Tempête, qui est, si j'ai bien compris, une émanation des soulèvements pour le 93 Nord, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc, assez logiquement, on pourrait dire, ce que vous m'avez dit, c'est que la logistique s'est imposée comme un thème de prédilection pour vous en termes de, à la fois d'actualité et de, peut-être d'intérêt politique de cet endroit-là.
C'est ça, en fait. Disons qu'on s'est un petit peu éloigné des thématiques traditionnelles des soulèvements de la terre, c'est-à-dire l'accaparement de terre et l'eau, parce que c'était des questions qui concernaient beaucoup la paysannerie et le monde un peu hors des métropoles. Et quand, après la menace de dissolution, qui n'a pas eu lieu finalement, les comités locaux ont commencé à se créer, il fallait bien qu'on se concentre sur le territoire dans lequel on était placé. Et là, ça s'est posé un peu comme une évidence que les problématiques de la métropole croisées avec celles de l'écologie tourner finalement autour des infrastructures et de la logistique.
Ouais. Alors, parmi ces projets logistiques, il y en a plein. Donc, il y a des routes, il y a des autoroutes, il y a des dessertes, il y a des entrepôts. Et parmi celui-ci, il y a ce fameux projet d'entrepôt Green Dock, dont on pourra discuter du nom, à Gennevilliers. Donc, Gennevilliers qui est déjà en fait un énorme port / plateforme logistique. Qu'on avait eu la chance de découvrir et de visiter à l'occasion du blocage de la cimenterie Lafarge, puisque de là, on avait quand même une vue assez incroyable sur cet espace qu'est la boucle de Seine au niveau de Gennevilliers. Découverte assez saisissante en termes à la fois de l'endroit où on était et de ce qu'est cet espace logistique de Gennevilliers. C'est quoi ce projet Green Dock ?
C'est un entrepôt géant. Un entrepôt routier qui n'est donc absolument pas green. Et quand on dit géant, il faut s'imaginer quand même que c'est plus gros que tous les entrepôts qu'on voit déjà partout ailleurs. Donc les dimensions, c'est que ça fait 600 mètres de long et 35 mètres de haut. Nous, on dit toujours, pour se représenter un peu la chose, que ça fait deux stades de France collés côte à côte. Et un des problèmes évidents quand on voit ce projet, c'est que cette espèce de deux stades de France logistique collés côte à côte, il est situé, le projet, sur les berges de Seine. Mais vraiment tout le long de la Seine, dans un endroit en fait où bien sûr il y a le port de Gennevilliers, mais juste en face il y a aussi une zone Natura 2000 protégée, qui est une zone non anthropisée, donc où l'humain n'a pas trop le droit d'accéder, on peut y aller quand même, mais, et où actuellement en fait il y a plein d'oiseaux, plein d'espèces, il y a plein de biodiversité.
Et là, actuellement, c'est l'endroit sur lequel ce serait une friche qui est le long de la Seine, et il faut un accès fluvial parce que Green Dock, ce serait aussi un quai de débarquement, c'est ça l'idée ?
Ouais, ça a été présenté au début comme un entrepôt fluvial, mais en réalité, on a vite compris, c'est surtout les luttes locales qui se sont emparées de cette thématique-là qu'on a compris au début, qu'il y aurait 15% de fluvial seulement annoncé. Donc on ne sait même pas ce que ça donnera à terme. Donc pour l'instant, il y a des friches, des entrepôts en friche, ils sont plus occupés, qui vont être démolis. Ça va revenir à la terre. Et nous, on compte bien arriver au moment où, en fait, quand ce sera de la terre, on n'a pas envie que soient reconstruits des entrepôts beaucoup plus gros que ce qui était déjà existant.
Ouais. Alors, pour se figurer un peu cet espace, donc on imagine deux stades de France dédiés à la logistique, à l'entrée et à la sortie de marchandises. Qu'est-ce qui peut se passer dans un entrepôt aussi gros? Parce que moi, je m'imagine, du coup, je ne sais pas si c'est ça, que des camions rentrent, des camions sortent, et entre-temps, eh ben, j'imagine comme un immense parking où on a chargé, déchargé. Mais en fait, si c'est aussi gros, c'est qu'il y a autre chose qui se passe dedans.
Ouais, alors en fait, pour se représenter la chose, je pense aujourd'hui on peut dire que c'est une sorte de grosse usine à colis, quoi. Un énorme entrepôt où à l'intérieur il y a du stockage, mais où il y a beaucoup de manutention de colis aussi. C'est-à-dire qu'il y a des flux qui rentrent, ils sont stockés, ils sont transformés, ils sont mélangés entre eux et ils ressortent sous une forme différente. Donc il n'y a pas que du stockage, il y a beaucoup de manutention manuelle avec beaucoup d'ouvriers. C'est un secteur où il y a beaucoup d'ouvriers qui manutentionnent les colis et plein de machines, notamment plein de tapis qui font circuler ces colis-là 24 heures sur 24. Ça ne s'arrête jamais, toujours en urgence. C'est des endroits où c'est un speed permanent, c'est très peu organisé et occupé par plusieurs entreprises parce que là, c'est très très gros. Donc, il va y avoir 4 cases différentes et dans chaque case, il y aura un sous-traitant logistique différent qui pourra changer tout le temps. Donc, on ne sait même pas trop ce qui va être fait à terme.
Ouais. Mais dedans, là, ici, donc on imagine des grands tapis roulants. Ça veut dire que c'est une plateforme logistique dédiée à une distribution particulière ou en fonction de ce qui arrive, de ce qui repart. On réorganise tout en fonction de la distribution? Est-ce que c'est toujours le même flux qui rentre, qui sort? Comment on s'organise là-dedans?
Ça change tout le temps, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que cet entrepôt, il est construit par un promoteur immobilier spécialisé en logistique qui s'appelle Goodman, qui est un des plus gros promoteurs immobiliers logistiques au monde. Et comme c'est un promoteur immobilier, en fait, on ne sait pas ce qui va se faire à l'intérieur. Donc aujourd'hui, il est vendu comme un entrepôt green, avec de la logistique multimodale, du dernier kilomètre. Mais en fait, on ne sait pas du tout ce qui va être fait dedans. Et la plupart du temps, ce n'est pas du dernier kilomètre, c'est juste du flux. Donc ça peut être des flux, par exemple, qui vont venir des grands ports, Le Havre ou d'autres, qui vont passer par Paris pour repartir après on ne sait où. Donc ce n'est pas forcément du dernier kilomètre. Et puis surtout, ça va changer sans arrêt. Les sous-traitants logistiques, ils vont changer sans arrêt selon ce qui les intéresse le plus ou le moins. Il y a certains sous-traitants logistiques là qui sont prévus dans l'entrepôt Green Dock, comme XPO par exemple, qui sont déjà sur le port de Gennevilliers. Donc eux, ils vont juste profiter d'un nouvel espace pour faire leur business. Donc il n'y a pas du tout cette idée-là d'un truc qui serait là pour répondre à des besoins, même les besoins de la métropole parisienne. Ça répond aux besoins des grands groupes qui utilisent la logistique aujourd'hui pour faire baisser leurs coûts de production. C'est ça le réel intérêt de ces types d'entrepôts. En plus de générer des profits pour des promoteurs immobiliers qui font de la spéculation immobilière avec les entrepôts logistiques aujourd'hui.
Et c'est que, parce qu'on s'imagine de plus en plus, en fait, beaucoup de personnes ont découvert la logistique à l'occasion de la construction des entrepôts Amazon et autres nouvelles plateformes dédiées au commerce en ligne notamment. On comprend bien que c'est des nouvelles infrastructures qu'il faut mettre en place. Là, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est simplement de la logistique de base pour les grandes et moyennes surfaces ou la distribution de marchandises régulières?
Là, pour l'instant, les sous-traitants qui sont annoncés, c'est XPO, Steph, par exemple, qui fait de la logistique de frais. Donc eux, ils font tout type d'activité. Ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être qu'il y aura une case, il y a une dernière case de l'entrepôt, on ne sait pas qui ce sera. Peut-être que c'est Amazon, c'est possible. Ça correspond un peu à leurs besoins. Mais ce qui est sûr, c'est que le côté e-commerce, c'est une partie de la logistique qui est en essor actuellement. Mais ce n'est pas le gros de la logistique. Il y avait déjà beaucoup de logistique avant le e-commerce. Et c'est un peu... c'est bien de se rendre compte que le e-commerce, ça crée des activités néfastes comme de la logistique. Mais il ne faut pas se dire que c'est à cause de nos commandes de colis qu'il y a plus de logistique aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une logique infernale du capitalisme contemporain qui est de construire plus de routes pour construire plus d'entrepôts qui ramènent plus de routes et ainsi de suite. Et cette logique, elle est en dehors de ce que nous, on peut créer en tant que consommateurs, quoi. C'est une logique de production et pas de consommation.
Pas de consommation, du coup, là, c'est tous ces entrepôts, ils sont portés par des promoteurs. Et ici, là, ce projet-là, donc on a les sous-traitants, mais alors c'est qui porte ça? Est-ce que c'est le port de Gennevilliers? Là, on a parlé de Goodman. C'est qui ces gens-là qui portent ces projets-là?
Donc, on pourrait dire qu'il y a deux acteurs majoritaires du projet. Il y a Goodman, le promoteur immobilier, donc pour la partie... je prends la terre, je m'installe là. Et on va dire l'espèce de structure semi-étatique qui porte, qui visibilise, qui marchandise le projet de Green Dock, c'est Aropa Port, Aropa H-A-R-O-P-A, Le Havre, Rouen, Paris, qui est l'acteur central du projet et qui se présente lui-même comme le plus grand port fluvio-maritime d'Europe. en liant du coup les zones portuaires du Havre, du Rouen et de Paris dans la banlieue, dont Gennevilliers serait un des points destinataires. Et c'est tout à fait frappant quand on va sur le site de Haropaport, comme le projet Green Dock est représenté comme quelque chose, comme une sorte d'aboutissement de l'innovation technologique et technosolutionniste autour de nouvelles infrastructures plus green, alors qu'en réalité, dès qu'on décortique un petit peu le discours, il n'en est rien. Mmh. Et derrière ces deux grandes structures qui ne sont pas du tout visibilisées, en fait, il y a le maire de Gennevilliers qui défend ce projet bec et ongle pour l'argument toujours très utilisé par les élus en général, qui est que ça va ramener du travail sur le territoire et que ça va servir à sa ville, à lui, ce qui en pratique est faux.
Alors c'est faux pour sa ville ou c'est faux pour le territoire et parce que sur place, il va y avoir les emplois de créer. La question, c'est d'où ils viennent, c'est ça Est-ce que les autres emplois qui ont été détruits à d'autres endroits?
En fait, déjà, les emplois qui vont être créés, c'est pas des emplois très cool. Hein. Les emplois de la logistique, c'est plus de 80% des emplois ouvriers, des conditions de travail pénibles. C'est un des secteurs les plus pénibles en France. C'est le secteur qui a le plus recours à l'intérim. Donc déjà, au niveau de l'emploi, c'est pas incroyable. En plus, on n'est même pas sûr qu'il y ait vraiment des créations, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a des sous-traitants logistiques qui sont déjà sur le port, qui vont juste se déplacer pour aller dans cet endroit-là. Donc eux, ils veulent profiter de l'image green du nouvel entrepôt, puis d'un espace neuf avec des nouveaux outils, donc c'est cool pour eux. Mais en termes de création d'emplois, c'est pas évident de ce que ça va créer. Et puis nous, ce qu'on répète aussi, c'est que en fait, cet espace-là, le port de Gennevilliers, qui donc en fait est une zone logistique, il y a aujourd'hui 8000 ouvriers qui travaillent sur ce port. Ces ouvriers, en fait, ils viennent de toute l'Île-de-France. Ils la traversent parfois pendant des heures de transport ou de route pour venir travailler là. Et ils ne viennent pas de Gennevilliers ou des alentours. Donc il y a un souci autour de ça, de cet argument-là. Et même si on a fait ça, on a regardé en détail les statistiques. En fait, Gennevilliers, c'est ce qu'on appelle une ville dissociée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois ouvriers, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'habitants ouvriers à Gennevilliers. Et notamment dans la logistique, il y a beaucoup plus d'emplois ouvriers sur le port que ce qu'il y a besoin pour Gennevilliers et les alentours. Donc en fait, il y a un discours autour de ça qui marche pas trop et qui, à notre avis, est pas le vrai argument.
Parce que, oui, c'est ça, c'est le genre de ville où en fait, il y a presque plus d'emplois que d'habitants, surtout pour ces trucs-là.
Par contre, ça génère de la taxe foncière. Et ça, les maires, ils aiment bien parce qu'ils peuvent l'utiliser après pour leurs projets politiques. Ouais. Et on peut le comprendre, mais en fait, avec de tels dégâts sur les environs, sur le territoire autour, est-ce que vraiment on a envie de faire plaisir aux maires de Gennevilliers juste pour qu'ils puissent, je sais pas, avoir un arbre de Noël un peu plus grand, quoi?
On a commencé à parler donc dans la logique de ce projet un peu, donc de ce Haropaport qui se veut, c'est une entité qui existe réellement, qui a été produite récemment et voilà, qui est censée relier comme ça sur un axe Seine les ports de Havre, Rouen et Paris avec Gennevilliers qui est parfois un peu comme l'aboutissement, une sorte de... Ça va jusqu'à Paris, puis ça distribue au niveau de Paris par le fleuve. Et c'est là que Green Dock se pose comme étant un des éléments d'un port fluvial, quoi. Et peut-être on peut un peu essayer de comprendre ce qu'il y a en aval. Alors, en fait, on pourrait presque le dire en aval et en amont, à la fois du point de vue du fleuve et aussi du point de vue de la logique logistique. Qu'est-ce qu'il faut pour que des marchandises arrivent jusqu'à cet entrepôt qui s'appelle qui s'appellerait Green Dock.
En termes de transport.
Est-ce que ça implique en termes de on est dans la logistique, on part de ce point-là et c'est quoi toutes les logistiques qu'il y a avant pour arriver jusque-là?
Alors pour que les marchandises arrivent jusque-là, il faut des camions en fait parce que comme l'a dit Damien tout à l'heure, il y a que 15% de trafic fluvial annoncé, sachant que c'est des chiffres peut-être un peu surestimés, peut-être qu'en réalité ce serait plutôt 10%. Et c'est essentiellement des camions, en fait. Le fret ferroviaire n'est pas du tout utilisé, ni utilisé comme argument pour des raisons à la fois pratiques concernant la logistique et aussi parce que c'est pas du tout dans l'intérêt des promoteurs et puis du fonctionnement de la logistique en général. Donc c'est des tonnes et des tonnes de camions, ce qui veut dire des tonnes et des tonnes de routes, d'autoroutes existantes et de projets d'autoroutes supplémentaires. Donc c'est là qu'on se rend compte que Green Dock tout seul, c'est déjà un truc catastrophique, mais que la catastrophe s'amplifie quand on connecte le projet d'entrepôt au projet d'autoroute et de création de route existant dans la banlieue parisienne et puis en Île-de-France en général.
On pense notamment à un projet, le BIP. En fait, il y a un projet qui s'appelle le BIP, qui est prévu dans le Val d'Oise, c'est Boulevard Inter-Parisis. Et donc c'est une espèce d'autoroute qui va traverser tout un petit coin du Val d'Oise dans le 95, donc en banlieue nord un peu plus lointaine que nous, où il y a plein d'espaces verts. Et en fait, le vrai intérêt de ce projet, c'est de relier les zones logistiques de Roissy, l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, avec le port de Gennevilliers. Et notamment Green Dock. Donc il y a comme ça plein d'infrastructures qui se greffent autour de ces espaces logistiques. En plus de toutes les infrastructures qu'il y a en amont, parce qu'en fait, pour amener des marchandises jusqu'à ce port Green Dock de Gennevilliers, il faut aussi des porte-conteneurs qui vont les amener jusqu'au Havre, des conteneurs. Et puis, on pourra même remonter le fil et aller chercher toutes les infrastructures dans les pays producteurs qui vont exploiter des gens à l'autre bout du monde pour que nous, on ait le droit à des produits un petit peu moins chers. Donc, il y a tout un fil comme ça de grands méchants qu'on peut retracer à travers ce genre de projet.
Ouais. Ce qui veut dire que là, la logique de... un porte-conteneur arrive au Havre, le charge sur une barge fluviale et va jusqu'à Green Dock pour aller alimenter les commerces parisiens. En fait, c'est une mythologie, ça, en fait.
C'est plus qu'une mythologie, c'est un mensonge. Okay. Ça n'existe pas du tout, ouais. C'est même pas praticable.
Ouais, ouais. Ni parce que ça passera par le fleuve et parce que Green Dock n'est pas spécialement fait pour alimenter Paris, en fait.
Ouais, parce que... alors, Green Dock n'est pas forcément fait pour alimenter Paris. Et puis quand même, la plupart des conteneurs aujourd'hui sont déchargés autour du Havre dans des zones logistiques. Et après, ils traversent l'Europe sur des camions. Ouais. C'est vraiment ça le grand principe de la logistique. Ouais. Et même nous, on n'est pas contre la logistique fluviale. En fait, on peut en avoir besoin. Hein, si on veut penser l'avenir et les modes d'approvisionnement des métropoles et comment les modifier, on peut faire du fluvial. On peut faire beaucoup de ferroviaire aussi. Sauf qu'aujourd'hui, le système logistique actuel, l'empire logistique, comme nous on l'appelle, il n'est pas du tout prêt à ça. Il n'accepte pas du tout ça. La seule chose qu'il peut faire avec le fluvial, c'est du gigantisme. C'est des barques de 200 mètres de long avec des conteneurs qui vont venir des quatre coins du monde. Ça n'a rien à voir avec une forme un peu de relocalisation ou d'approvisionnement qui serait un peu plus écolo des villes en Europe du Nord.
Ce serait que amener des porte-conteneurs plus loin dans les terres, en fait.
Voilà.
Okay. Alors, sur cette organisation, justement, de la logistique, la raison, quand tu parlais de flux tendu, c'est qu'en fait ceci fait que c'est impossible de passer par du fluvial ou du ferroviaire à cause de ces contraintes, en fait.
Ouais, et nous ce qu'on revendique d'ailleurs...
Tu peux expliquer un peu ça du coup, parce que...
Ouais, en fait, pour commencer par la revendication, c'est que nous on voudrait un moratoire par exemple sur les zones logistiques pour qu'on décide un peu de où est-ce qu'on en met, où est-ce qu'on en met pas, au moins un minimum de contrôle. Et même plus largement, il faudra peut-être penser, si on voit un peu plus loin quoi, des schémas logistiques qui seraient encadrés par je sais pas qui, mais qu'il faudrait encadrer. Actuellement, c'est complètement dérégulé. Et en fait, si on encadrait un peu ces schémas logistiques, on se demanderait de quoi on a réellement besoin et comment on veut le faire. Actuellement, ce n'est pas le cas. C'est juste une logique exponentielle de toujours faire plus de logistique dans un seul intérêt, qui est celui des grands groupes, des grandes multinationales, des promoteurs immobiliers et des logisticiens. Et tout le monde se rend compte pour faire son petit business, quoi. Donc, il y a un vrai besoin de repenser ça à des échelles un peu différentes. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, quoi.
Et du coup, la raison pour laquelle il y a le ferroviaire et le fluvial, en fait, ne correspond pas à cette organisation de la logistique.
Parce que du coup, dans leur système à eux aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas être encadrés, leur système à eux, c'est de tout faire en urgence. Alors, on dit flux tendu, mais en réalité, c'est plutôt juste à temps. Juste à temps, ça convient mieux que flux tendu, parce que flux tendu, c'est un peu leur idéal, c'est de faire croire qu'il y a un écoulement continu du flux et que tout ça est harmonieux. En réalité, pas du tout. C'est du juste à temps qui est géré par beaucoup de sous-traitants. Donc complètement à l'arrache, pour le dire autrement, il n'y a pas de planification. C'est pour ça, par exemple, que la logistique aujourd'hui, elle est telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est incapable d'utiliser le fret ferroviaire. Il n'y a pas assez d'investissement de l'État. Puis en plus, Sudrail le montre très bien en ce moment, l'État est en train d'abandonner le fret public. Mais ce n'est pas seulement ça le problème, parce que même dans les endroits où l'État essaye ou des régions essayent d'investir sur le ferroviaire, en fait, les grands groupes de la logistique, ils s'en foutent. Ils ne l'utilisent pas. Ce qu'ils veulent, eux, c'est des camions qui partent à l'arrache tous les jours, au dernier moment, et rester comme ça dans l'urgence. C'est ça leur mode de fonctionnement. Ils sont très loin d'une forme de planification qui pourrait ressembler à quelque chose d'un tant soit peu écologique. Et pour faire ça un jour, il faudra les contraindre, sûrement. Ouais, ouais. Ou en tout cas, nous, on va essayer de porter ce genre de truc et de les empêcher, au moins, dans ce qu'ils font actuellement.
Ouais. Parce que eux, ils sont même incapables de s'organiser presque à la journée, en fait. C'est que les marchandises, le matin, on ne sait pas ce que ça va être. Les intérimaires, limite, c'est même pas ceux de la veille. Il y a quelque chose qui est comme ça, une impossibilité à s'organiser, en fait. Mmh. Ouais, alors même que c'est censé être le centre de l'organisation, il y a quelque chose d'un peu contradictoire là-dedans, quand même.
Ouais, c'est flagrant dans les entrepôts logistiques. Moi, j'ai fait de l'intérim quand j'étais un peu plus jeune dans ces entrepôts-là. Tu débarques le matin, tu ne sais pas ce qui va se passer. Les chefs aussi. Et même les gens, ils kiffent un peu parce que les chefs, ils arrivent le matin, tu sais, c'est hyper changeant comme métier, tu sais pas ce qui va se produire dans la journée. Donc ok, ça peut être un peu stimulant pour ta journée de travail, mais d'un point de vue écologique, en fait, on peut pas avoir des modes d'approvisionnement corrects si on n'organise pas un minimum le bazar, quoi.
Ouais. Et ben on se fait une petite pause musicale. C'était donc 13-14 de Arnaud Rebottini, pardon. Et vous êtes toujours dans Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM. Et nous sommes toujours en train de parler logistique autour du projet Green Dock avec des militants de Pleine Tempête qui s'organisent contre ce projet parmi d'autres. D'autres projets et d'autres collectifs. Donc, on était en train donc, de parler de cet endroit, quand même, qui est cette boucle de Seine de Gennevilliers, là, et de l'implantation de cette plateforme, cette future plateforme, peut-être, dedans. Alors, c'est quoi cet endroit, cette boucle de Seine, là, comme ça ?
Bah, c'est un bel endroit.
Okay.
C'est le premier truc qu'il faut dire.
Okay. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de premier abord.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, je pense qu'il faut vraiment aller sur le site, même en tant que francilien, parisien, peu importe, ouais, pour se dire, mais cet endroit est très joli quand même. Okay. C'est sur les berges de Seine, on se retrouve tout d'un coup avec un immense bras de la Seine, très beau, tout calme, énormément de nature. Et c'est un endroit particulièrement intéressant du point de vue de la biodiversité et de la faune et de la flore. Donc il faut s'imaginer la Seine avec les deux berges de chaque côté et au milieu de la Seine la pointe de l'île Saint-Denis. Mmh. Au bout de cette pointe il y a une zone dont parlait Damien tout à l'heure qui est une zone Natura 2000, une zone non anthropisée avec du coup une biodiversité plus riche que dans d'autres endroits ou disons plus remarquable, zone dans laquelle il y a un certain nombre d'espèces protégées, des espèces d'oiseaux protégées avec des petits noms rigolos comme le martin pêcheur. Mais au-delà de cette biodiversité protégée, on a quand même un certain nombre d'espèces qui nichent là, les cormorans par exemple, qui devient un peu l'animal totem de la lutte contre Green Dock. Donc c'est une zone vraiment spéciale et surprenante par sa beauté et puis son calme aussi. Mmh. On s'imagine très bien, on se projette très bien faire une balade là, respirer tranquillement.
Alors même que juste en face, c'est justement les darges de Gennevilliers.
Oui, enfin, c'est ça qui est étonnant.
Ouais. Et qui fait comme ça un îlot. Mmh. Et donc là, le Green Dock, qui ferait un énorme bâtiment qui ferait écran face à ça. C'est ça le truc.
Mais du coup, je rebondis sur le terme d'écran. Donc il faut s'imaginer dans cet endroit plutôt joli, malgré la présence de beaucoup d'infrastructures logistiques, un cube, non pas un cube, un parallélépipède rectangle gigantesque. Et un des arguments du promoteur et aussi du maire, c'est de dire que ça ferait un écran phonique, donc une sorte de barrière contre les nuisances des camions et tout. Mais en fait, c'est pas du tout un écran, en fait. C'est un parasite, quoi. Ouais, c'est un parallélépipède parasitant, quoi.
Il faut s'imaginer, par exemple, quand il dit écran sonore, c'est complètement vraiment absurde. Mais en plus, de toute façon, il va y avoir des rampes d'accès à 25 mètres de haut sur lesquelles les camions vont monter. Enfin, ça va faire un bazar monstre. Ouais. Et puis en plus, ce qu'il appelle écran, je sais pas quoi là, sonore, il faut s'imaginer aussi que ça va faire de l'ombre sur la zone où nichent les oiseaux juste en face toute l'année. Et en fait, des zones comme ça, on en a pas beaucoup chez nous, alors que des entrepôts, des autoroutes, du bitume et du CO2, ça va, on a tout ce qu'il faut, on est asphyxié de CO2, de bitume et d'entrepôt. Les zones naturelles, il faut les protéger, surtout dans ces lieux-là. Ouais.
Et donc cet entrepôt logistique, là, il va s'installer au milieu de cet autre endroit qui est déjà, en fait, on parle pour certains géographes de zones de desserte, qui sont en fait au service de la métropole, et Gennevilliers, son rôle stratégique et géographique, c'est d'accueillir la logistique et les camions, en fait. Il y a un truc un peu comme ça, et Green Dock renforce ça.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle un territoire servant, c'est-à-dire qui sert une métropole ayant une plus forte valeur que le territoire servant. Et c'est aussi très représentatif du traitement des banlieues en Île-de-France et globalement dans les métropoles, qui est que le cœur à la fois intellectuel, palpitant, valorisant et valorisé des métropoles, c'est le centre, dans une logique de centralité, et que tout le pourtour n'existe que pour servir le territoire central, et de fait a une valeur moindre, opaque, opacifiée.
C'est vraiment symbolique des inégalités environnementales, telles qu'on les voit sur un niveau vraiment structurel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité fondamentale de consacrer ce territoire servant, le mot il est horrible, à la métropole, avec tous les dégâts que ça crée, même de racisme environnemental, en fait. Si on regarde qui travaille sur le port, qui habite autour, il y a une forme de racisme environnemental à laisser faire ce genre de grands projets, quoi. Nous, on parle beaucoup aussi des périodes de canicule, en fait. On vit dans un endroit où va y avoir des canicules, on le sait très bien, énormes pendant les prochaines années. Est-ce que vraiment les seuls coins de fraîcheur sur le bord de Seine, c'est vraiment sur les berges, il est à 10 mètres même pas de la Seine, le projet. Est-ce que vraiment on a envie de construire des entrepôts logistiques géants à ces endroits-là?
Parce que, on imagine comme ça, effectivement, que Gennevilliers est donc une ville en deux, avec un côté industriel, logistique et des logements, et que les gens qui habitent du coup à Gennevilliers, dans les villes autour, en fait, habitent avec la 15 qui est énorme, qui passe au-dessus, avec les voitures et les poids lourds qui en fait vont desservir ces énormes plateformes logistiques, et qu'en fait on vit quand on habite là, en fait, cerné par ces espaces qui sont des espaces de desserte et hyper pollués et hyper polluants en permanence. Ouais,
la zone logistique de Gennevilliers, la 15, la 86, les avions de Roissy qui passent au-dessus, c'est bon, il y a ce qu'il faut, quoi. On n'a pas besoin d'en rajouter des couches.
Ouais. Et donc là, on rajouterait encore du trafic là-dedans.
Du trafic, de la pollution aux particules fines liées au trafic.
Ce serait combien de camions, là, pour un...
Donc c'est estimation sûrement... à revoir à la hausse de 1200 rotations de camions par jour, jour et nuit. Et enfin, si on veut parler
jour et nuit, c'est ça qui est
fou. Des nuisances sonores en termes de pollution, en termes de lumière, qui sont permanentes. Ouais. Et juste en termes de chiffres, toute cette affaire gigantesque est très parlante, quoi. C'est 1200 rotations de camions, 600 mètres de long, 35 mètres de haut. C'est absolument démesuré, quoi.
Avec un chiffre qui, en fait, contrebalance ça, qui disent oui, mais ça n'est que 2 ou 3% de plus. Et donc, on se rend compte de ce En plus, il y a déjà beaucoup, ce qui fait que la base est déjà monstrueuse en termes de nuisance.
2 ou 3% de trafic en plus, donc c'est aussi des bouchons pour les riverains, ce qui est aussi un problème de mobilité. Et sur le CO2, il y a un chiffre qui est incroyable, comme en Ile-de-France, enfin, on le sait, hein, dans la banlieue nord, ça tue les gens, les concentrations de CO2. Et en fait, dans ces territoires-là, le CO2, la production de CO2, c'est 30% de transport de marchandises. Ouais. Transport de marchandises, c'est 30% du CO2. C'est un gros morceau. C'est plus que dans les autres territoires.
Dans les territoires, c'est plutôt du chauffage, par exemple. Ou des...
Voilà.
Alors donc, que là, c'est vraiment le transport qui...
30%. Ouais. Donc, si on veut régler la question et au moins l'améliorer, il faut s'attaquer à cet objet-là. C'est pas possible.
Ouais. Et l'autre chiffre qu'on peut donner avant de te repasser la parole, c'est que en Ile-de-France, les décès liés à la pollution aérienne, c'est 1 sur 10. Donc, si on refait la ligne des contre-chiffres qu'on a proposé contre Green Dog, c'est vous nous apportez plus de camions, donc plus de pollution aérienne, donc plus de décès.
Donc 2-3% de plus, et puis voilà. Et puis le prochain samedi sera bien. Et donc, il y a aussi l'autre élément, peut-être, sur ces plateformes logistiques, du point de vue de la structuration du territoire, c'est que c'est de l'emploi intérimaire qui vient, et en fait on structure aussi un territoire d'emploi et de travail comme ça, avec des habitants qui vont aussi, en fait, sont dédiés à y travailler, quoi.
Ouais, et c'est même risqué du point de vue des territoires, parce qu'il y a plein de... Ailleurs, si on prend le sujet logistique plus largement en France aujourd'hui, il y a plein d'endroits, et notamment des endroits un peu désindustrialisés, où la logistique, c'est un peu perçu comme le renouveau de l'emploi industriel, patati patata. Et en fait, ces territoires-là, ils vont faire ce pari-là de la logistique, mais il est hyper risqué, ce pari. Il y a juste un truc qui est frappant, en fait. Aujourd'hui, les ouvriers de la logistique, ils n'arrivent pas à rester durablement dans leur métier, dans leur emploi, parce que ça casse la santé. Et comme il y a plus de 80% de l'emploi, c'est que des emplois ouvriers, il n'y a pas non plus de possibilité d'évolution professionnelle. Ouais. 80% d'ouvriers, ils ne peuvent pas accéder aux 20% de postes qui restent, surtout qu'il y a des cadres là-dedans, enfin bref. Donc c'est le pari, il est vraiment risqué. C'est des gens qui se retrouvent cassés à 35-40 ans. L'INRS aujourd'hui disent qu'au bout de 5-6 ans de travail comme intérimaire ou comme même CDI, c'est pareil, hein, dans la logistique, tu es cassé. Donc il y a un truc qui cloche, ça peut être le dos, les bras, les articulations. Et après, les territoires, ils doivent gérer ça. Donc c'est Pôle emploi qui va gérer ça. Il faut payer des gens qui vont devoir se reformer, on ne sait même pas comment. Donc c'est vraiment un risque... c'est un pari qui est très risqué et qui est dangereux, quoi.
Certains, justement, sur les éléments de logistique, en fait, qui sont eux-mêmes des entrepôts qui sont, en fait, dans l'espace du temps de travail assez éphémère, parce que c'est pas des usines qui sont là pour 50 ans, en fait, ou même et qu'en fait, il s'agit d'essorer un territoire du point de vue de la main-d'œuvre disponible, on la casse et ensuite on se barre. Et qu'en fait, peut-être que cette organisation de la scène, alors le bassin et l'Île-de-France, avant d'avoir cassé tout le monde, il se passe un peu de temps, mais peut-être que c'est ça qui se joue, en fait, c'est d'avoir des distributions comme ça, et que les routes, elles pourraient presque desservir les futures plateformes, là où la main-d'œuvre serait pas encore complètement cassée et qu'on pourrait encore l'exploiter à tel endroit, qu'il va falloir relier ça, quoi. C'est un peu terrifiant, quoi.
Ouais, ça se déplace tout le temps, non seulement pour aller chercher des nouvelles sources de main-d'œuvre, c'est un secteur qui consomme de la main-d'œuvre, même consommé au sens presque physique du terme, du coup, quoi. C'est un peu violent, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est aussi un secteur, et ça aussi, ça joue beaucoup sur l'expansion de la logistique, c'est un secteur qui fait de la spéculation immobilière, on en parlait tout à l'heure. Et comment ils font, en fait, pour faire de la spéculation immobilière? Ils se mettent sur le front, ce qu'on appelle le front de l'urbanisation. Donc c'est toujours les premiers à urbaniser un peu plus les villes, quoi. Et comme ils rachètent des terrains dans ces endroits-là pour y construire des entrepôts, alors après, les ouvriers doivent se déplacer des kilomètres et des kilomètres dans des endroits où il n'y a pas d'infrastructure pour se déplacer. Ensuite, leur pari, c'est de dire, mais dans 20-30 ans, une fois que nous, on aura lancé l'artificialisation et l'urbanisation, après ça va se développer autour de nous, et après on pourra revendre ça dans un truc qui aura plus de valeur qu'un espace agricole souvent ou naturel qui est devenu un espace logistique, et ils vont le revendre comme un espace commercial, par exemple, et ils vont faire de la plus-value, quoi. Donc ils sont vraiment de ce point de vue-là aussi néfastes, c'est-à-dire qu'ils poussent la métropolisation et tous les impacts que ça a avec.
Et compléter un petit peu ce que tu dis, c'est vrai que plus on se penche sur le sujet, plus on a le sentiment que la logistique vend de la création et de la fluidité, quoi. Un idéal de création et de fluidité, ou de création au sens où je fais sortir des infrastructures et des structures de terre qui nous seraient destinées. Et derrière, en fait, cette création et cette fluidité qui nous sont vendues vraiment comme les arguments, les services de la logistique, il y a une opacité incroyable à la fois en termes très pratiques de qu'est-ce qui se passe dans l'entrepôt, ouais. qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on prend, ouais. et puis tout autour, ces entrepôts, ils sont moches.
De ce que sont ces opérations, quoi.
Oui, c'est ouais. ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe en dessous dans le théâtre des opérations, ouais. on n'en sait rien, à la fois parce que c'est moche au sens physique ouais. et c'est moche au sens moral. Les entrepôts, ils sont toujours relégués dans des zones où on n'a pas envie d'aller parce que c'est pas beau ce qui s'y passe à l'intérieur. Et en fait, derrière cet idéal de création, en fait, la réalité, c'est de la destruction. Mmh. C'est de la destruction de l'environnement, biodiversité... Mmh. Et puis destruction du biotope, quoi, ouais. et destruction de l'humain. Ouais.
Et donc, heureusement, contre ça, il existe des coalitions de lutte dont vous faites partie. Et donc là, qui est donc Centre Île-de-France, mais peut-être pas uniquement, et qui regroupe un ensemble, alors contre ce projet-là, et peut-être aussi contre les questions logistiques en général, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu voilà, cette coalition-là
Oui, alors
enfin,
en fait...
coalition, je donne ce nom-là, c'est peut-être pas le bon, mais en tout cas...
quand le projet a commencé à être connu des habitants, il y a un collectif qui s'est monté, qui s'est auto-baptisé au bout d'un moment Stop Green Dock, qui est plutôt un collectif de riverains et qui a une approche, on va dire, davantage juridique. Ouais. Là, ils ont déposé un recours contre le projet, etc. Donc, ils suivent un peu la machine administrative de près. Et quand les comités locaux des soulèvements de la terre ont commencé à émerger, et quand on a compris qu'on pouvait s'intéresser aux enjeux écologiques propres aux métropoles, on a un peu été en contact avec des gens de ce groupe-là et on s'est focalisé sur Green Dock en s'emparant de la lutte et en travaillant aussi avec le collectif Stop Green Dock. D'ailleurs, il y a des gens de Pleine Tempête, notre comité local, qui sont aussi dans Stop Green Dock. Et ensuite, dans la mesure... Donc ça, c'est le pôle, on va dire, qui se concentre sur cette lutte-là. Et dans la mesure où, comme on l'a dit, Green Dock, c'est aussi des infrastructures autoroutières, etc., en fait, il y a toutes les autres coalitions qui s'occupent des infrastructures routières locales, du genre le BIP, ouais. ou un projet d'autoroute dont on a parlé il y a quelques mois, la 104 bis, ouais. en région parisienne. Et plus généralement, la coalition de la déroute, ouais. qui est une coalition nationale... ouais. Même pour les projets autoroutiers.
L'idée étant que les différents projets d'infrastructure, même s'ils sont éclatés, fassent sens en temps ce qui participe d'une même logique. C'est ça,
c'est ça. L'idée. En fait, plus on discute entre nous, plus on se rend compte qu'on a chacun pris un aspect ouais. des infrastructures du nouveau capitalisme qui en fait se complète et notre discours et notre argumentaire, en fait, il est commun, on n'a aucun mal à le faire coïncider. Ouais.
Et ça concerne même des luttes comme la lutte contre le canal Seine-Nord Europe, qui ouais. est hyper intéressante. Je vous conseille d'aller voir plus en détail. C'est autour de Compiègne, c'est le projet de construire un méga canal géant qui relierait Compiègne aux autres canaux du côté de Lille et puis à la fin à Rotterdam. Et ça, c'est un projet gigantesque d'artificialisation pour faire du fluvial. Mais en fait, il y a déjà un canal sur place. Donc là, c'est juste du gigantisme fluvial. C'est pour faire circuler des barges de 200 mètres avec trois niveaux de conteneurs. Oui. Alors qu'en fait, la logistique dont on aurait besoin, elle peut utiliser le canal existant. Oui. En termes d'artificialisation des sols, c'est monstrueux les chiffres. En plus, il y a un problème, ils ont peur de ne pas avoir assez d'eau pour alimenter ce canal, donc ils vont construire c'est même plus une méga bassine, là, c'est une giga bassine qui fait 22 fois Sainte-Soline, donc c'est vraiment monstrueux. Et nous, on est en connexion avec toute cette lutte-là, parce qu'il y a aussi le projet de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut comme type d'approvisionnement, qu'est-ce qu'on peut penser ensemble. Donc voilà, tout ça est relié.
Et je viens de me rendre compte que j'ai absolument pas dit tous les gens avec qui on était en contact, mais il faut s'imaginer que ce genre de lutte, si on veut qu'elle s'amplifie et qu'elle se massifie, il faut absolument impliquer toutes les associations écologistes qui existent, qui sont un peu classiques.
Là, il y a
Extinction Rebellion, Youth for Climate, Alternatiba, même si la mobilisation elle est portée par les soulèvements. Et puis derrière, comme dans beaucoup de mobilisations des soulèvements de la terre, on fait le lien avec les syndicats. Des élus, des députés, etc.
Et donc là, les prochains rendez-vous pour vous, c'est quoi? Pour ceux qui seraient convaincus de l'idée qu'il va falloir faire quelque chose.
Évidemment qu'on est convaincus de l'idée. Les prochains rendez-vous, donc il y a des petits rendez-vous, il y a des rendez-vous cool et il y a un gros rendez-vous. Donc les petits rendez-vous qui sont aussi des rendez-vous cool, c'est dès la semaine prochaine, mercredi 7 février, à Gennevilliers, devant la belle mairie, à 18h30, on se donne rendez-vous pour un rassemblement. Alors qu'une heure après, à 19h30, a lieu un conseil municipal. Donc c'est clairement pour faire signe au maire à qui on avait déjà fait coucou pendant ses vœux. Donc là, on fait un rassemblement un peu festif, un peu bruyant.
C'est quoi l'enjeu? C'est le permis de construire? Non, c'est ça. Non, s'il a déjà été déposé celui-là?
Alors, l'enjeu, c'est clairement casser les pieds aux maires.
Oui. Non, mais là, sur le recours, au niveau de la mairie, c'est...
La mairie doit valider un document, alors qui n'est pas exactement un permis de construire, mais on va dire que c'est la même chose.
Okay.
Et si la mairie ne le valide pas, il y a des chances que ça ne se fasse pas.
D'accord, ouais. Ok, donc il y a un enjeu réel quand même là, sur la mairie. Okay.
Ensuite, il y a une balade qu'on a prévue sur les lieux du potentiel entrepôt Green Dock. Ça fait 2-3 fois qu'on fait ce qu'on appelle une balade logistique, donc on invite des gens à venir sur le lieu. Et là, la thématique de la balade, c'est plutôt une thématique naturaliste. Il y aura des camarades, des naturalistes des terres, qui feront un petit état des lieux, des espèces intéressantes, remarquables ou pas.
Ça, c'est quand ça?
Ça, c'est le 11 février. C'est un dimanche. C'est un dimanche.
Voilà, la campagne, on se donnera dimanche.
Voilà. On se donnera rendez-vous à 13h30.
Sur les berges de Seine, du côté d'Épinay, ce sera annoncé.
Voilà. Le lieu sera communiqué plus tard. Et puis, le grand rendez-vous qu'on aimerait voir sortir de terre, c'est en mai 2024. On aimerait qu'il y ait une mobilisation assez massive du type acte des soulèvements de la terre sur le site de l'entrepôt, le site au sens
en tout cas, mais qui soit dédié à ce projet d'aménagement particulier.
Et qui partent de ce projet, mais qui fassent la connexion avec ce qu'on a dit, les luttes logistiques en Ile-de-France, et même aussi au niveau national.
Ouais.
Parce qu'on ne l'a pas dit, là, on se relie du coup pour boucler la boucle avec les questions agricoles aussi. La logistique, aujourd'hui, c'est plus 2 millions de mètres carrés d'entrepôts par an en France. Et en fait, c'est une courbe exponentielle qui n'a pas de fin. Ils peuvent ils pourront toujours en faire plus et encore plus si on ne les arrête pas. Et c'est plus 2 millions de mètres carrés, c'est en majorité des zones agricoles ou c'est des zones naturelles.
Et donc, c'est le plus gros, la logistique est aussi donc le plus gros grignoteur de terres agricoles. C'est ça,
un des très gros artificialisateurs en France aujourd'hui.
Ok, très bien. Eh bien, merci d'être venu. Et puis, on vous souhaite bonne continuation dans cette lutte. On va se tenir au courant, surtout s'il y a des dates prochaines. Et puis, on relaiera tout ça. Et puis, on espère bien que ce projet ne voit pas le jour.
Nous aussi.
Et comme on a beaucoup parlé de camions, on se quitte avec les voitures.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM, c'est toujours Zoom Écologie. On vient de s'écouter Princesse Voiture de Sexy Sushi. Et pour finir cette émission sur la logistique, eh bien, on vous propose l'intervention de Stanny Cambot de HN Inconnu, intervention sur la table ronde logistique du Festival des Résistantes et qui donc parlait justement de cet axe Seine et du projet Aropa de façon à mieux comprendre de quoi il s'agit.
Bonjour, c'est Annie Cambot d'Échelle Inconnue. Échelle Inconnue, c'est un groupe qui réunit à la fois des architectes, des artistes, des géographes, des journalistes, des réalisateurs. Et on travaille depuis... Grosso modo, on mène un travail et de recherche et de création en parallèle. On sort d'un long travail d'une dizaine d'années autour de la manière dont la métropolisation en fait, produisait son inverse, c'est-à-dire de quelle manière... L'effort métropolitain produit à la fois, c'est un travail qu'on a fait à la fois en France et en Russie, jusqu'à ce que la guerre éclate, la métropolisation produit son inverse, c'est-à-dire la ville informelle. Voilà. Et on travaille là aujourd'hui sur un autre sujet qui n'est pas si loin, c'est de quelle manière en définitive quelque chose qui pourrait s'apparenter à du projet logistique devient lui-même une forme politique et une forme métropolitaine. Donc, je vais essayer de ne pas trop déborder sur la table ronde qu'il y aura cet après-midi autour de la question de la métropolisation. Mais non, on travaille sur l'axe Seine, qui est donc une invention assez récente, hein, qui vise à faire du Havre le port de Paris. Et qui est un projet expérimental qui va se dupliquer, puisque Macron vient d'annoncer qu'il veut faire exactement la même chose sur l'axe Rhône, et de manière à relier Marseille à Lyon dans des grandes entités politiques et métropolitaines. Donc c'est ça le projet. Il y a toujours Attali derrière. Hein. C'est devenu une passion chez moi, Attali. J'ai son portrait. Je prie Attali le matin. Donc entre autres, la métropolisation en France, c'est quelque chose d'un peu particulier. Il y a plein d'endroits dans le monde où la métropolisation, ça s'est fait de manière pseudo-naturaliste. Alors souvent, c'est le fruit d'un effondrement hein, dans la Russie post-soviétique, c'est ça. Hein, c'est l'effondrement de l'URSS, la déshydratation du service public, et y compris du service logistique, hein, qui permet plus de trimballer de la bouffe d'une région à une autre, qui fait que tout le monde va se concentrer à Moscou et Saint-Pétersbourg, et faire en sorte que Moscou est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire 26 millions d'habitants, une mégalopole énorme. D'ailleurs, il y a des architectes français, auteurs aussi de quelques merdes sur le Grand Paris, qui ont travaillé longtemps avec les autorités poutiniennes pour faire en sorte que ça soit encore mieux et qu'il y ait peut-être plus de 26 millions d'habitants. En France, c'est un peu différent. C'est la loi qui décide que les villes doivent devenir, au-dessus de 500 000 habitants, doivent devenir des métropoles. Ça encore, c'est une préconisation que Attali livre à Sarkozy dans un rapport hein, qui lui est commandé et qui vise à faire jouer, je cite toujours mon maître, hein, Attali, j'avais Debord moi aussi avant, puis je l'ai laissé tomber. Attali, c'est tellement plus marrant. Et donc qui dit qu'il faut que ces villes deviennent des super communes de manière à jouer dans le jeu de la concurrence internationale. Donc avec cette idée que la ville elle-même devient un espace concurrentiel, devient quasiment une entreprise en soi, et devient, et ça c'est assez fou, je vais y revenir juste après, productrice de richesse. C'est-à-dire comment une ville, ça produit de la richesse, on peut se poser la question. Alors moi je viens de Rouen, ça je vois, hein, j'ai les cheminées d'usine, et puis de temps en temps elles me pètent à la gueule, donc je vois ce que ça signifie la richesse, hein, c'est produire du pétrole et le diffuser. Et puis dans ces préconisations, il y a ce truc un peu fou, alors qui est une idée un peu ancienne, parce qu'Attali aussi a d'autres maîtres, et parmi ces maîtres, il y a Napoléon Bonaparte, qui voulait faire en sorte que la Seine soit la grande rue d'une seule et même ville qui réunisse Paris et Le Havre. Et donc faire une immense métropole de 300 km de long, quand même, c'est pas rien, qui soit une seule et même ville et une seule entité politique. Et ce qu'on a un peu tous raté quand même, c'est l'espèce de petite révolution institutionnelle qu'a été la métropolisation en France. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé à déstructurer complètement, y compris le maillage démocratique à la papa, hein, où on va au bureau de vote, on met son petit bulletin, on élit son maire, et puis après on va gueuler devant la mairie parce qu'on n'est pas content. Là c'est mort parce qu'on élit son maire qui lui-même va élire le patron de la métropole, et au fur et à mesure ça se décale comme ça, et il y a une vraie perte de pied par rapport au territoire. Et donc cette grande idée, alors nous là en ce moment on travaille à un projet qui vise à travailler au storytelling de ça, parce que tout ça c'est comment c'est raconté, hein, c'était l'exemple du Green Dock, hein, où on vous raconte qu'un entrepôt de logistique c'est vert parce qu'il y a une ferme sur le toit, donc il y a un développement comme ça, et de quelle manière la métropole veut être tout aujourd'hui. Elle veut être à la fois la puissance logistique, elle veut être la puissance politique, elle veut être la puissance écologique, elle veut être la puissance culturelle, elle veut être tout. Et elle développe énormément d'efforts pour être tout, et c'est ce qui rend des fois le combat un peu compliqué face à ça. Parce qu'il y a en effet des séries de strates, et c'est compliqué de se dire que c'est en définitive le même mouvement qui pond le Green Dock et celui qui veut qu'on barbote dans l'eau de la Seine juste à côté. C'est le même projet. Ce n'est pas des projets antinomiques, c'est le même projet avec les mêmes acteurs derrière et les mêmes qui décident. Et donc il y a toujours ce côté un peu chaussette de Leibniz dans cette histoire qui fait que, d'ailleurs c'est assez drôle, hein, on vous parlait tout à l'heure d'Aropa, qui pourrait être quasiment l'autre nom de l'axe Seine, mais pas vraiment, hein, parce que c'est l'union des ports du Havre, H-A, Rouen, R-O, PA, PA, Paris, Aropa. Alors ça c'est quand on est en interne, parce qu'à l'extérieur, à l'international, on parle de Harbor of Paris. C'est-à-dire de comment tout ça est le port de Paris. Comment, en effet, il y a cette idée de territoire servant, d'une certaine manière, qui va se développer à cet endroit-là. Mais donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? C'est d'une part une union des ports au départ, mais au-delà, ça devient un projet politique, puisqu'ils viennent d'entériner donc, Nicolas Mayer-Rossignol, président de la métropole de Rouen, Édouard Philippe, président de ce qui n'est pas encore une métropole, mais il aimerait bien, qui s'appelle Le Havre, et Anne Hidalgo, et Saint-Jean, et le président du Grand Paris, viennent de signer ce qu'ils appellent l'entente, ce qu'on appelle nous l'entente de l'Axe, mais bon, c'est l'entente de l'Axe Seine, en fait, voilà, qui est un premier protocole, un premier pas vers une unité politique de tout ça. Et donc ça, évidemment, c'est du développement logistique, puisque c'est tout ça pourquoi, en définitive ? On va le redévelopper à Marseille, on verra comment. C'est en effet dans un effort, parce qu'on a parlé beaucoup de connexion entre les grandes métropoles, mais c'est aussi un effort de concurrence entre les grandes métropoles. Parce que le Aropa, ou l'axe Seine, n'a lieu d'être que parce qu'on veut rentrer en concurrence avec Rotterdam, qui est le plus grand diffuseur de boîtes, de conteneurs, donc, dans l'ensemble de l'Europe. Il se trouve que si on arrivait à faire en effet du Havre le port de Paris et qu'on ramène les boîtes directement à Paris, on est susceptible de gagner une journée, voire une journée et demie, sur le transport des boîtes vers le reste de l'Europe. Et c'est là-dessus, tout le projet politique va tenir là-dessus. C'est comment on ramène des boîtes à Paris et elles partent plus vite en Europe. Et pour ça, bah, en effet, c'est un peu compliqué, c'est mal foutu Paris quand même. Ça, c'est le provincial qui le dit, mais c'est que les spécialistes disent eux-mêmes, il faut basculer le barycentre de Paris. C'est de ça dont vous faites les frais, le barycentre logistique de Paris. Aujourd'hui, l'ensemble des entrepôts logistiques de Paris se trouvent plutôt au sud-est de Paris et il faut les ramener à l'ouest de Paris. Alors, un peu dans le 93, mais aussi, ça va être un peu chiant sur les coins un peu bourgeois, là. Ils n'aiment pas trop les entrepôts, ces gens-là, tout ça. Et donc, il va falloir ramener tout ça à cet endroit-là. Donc, c'est un travail quand même urbain énorme, avec une déstructuration complète d'une périphérie parisienne qui va viser à organiser tout ça. Mais tout ça n'est pas qu'un projet logistique, puisque ce n'est un projet logistique que parce que c'est un projet industriel. En effet, je recite mon maître, la grande idée du Grand Paris, c'était en effet de dire que les métropoles vont produire de la richesse. Alors comment le Grand Paris produit de la richesse ? Jusqu'à présent, la seule richesse que produit le Grand Paris, ce sont ses déchets. Mais qui valent du fric ? 500 millions de tonnes de ferraille, parce que pour construire le grand nouveau Paris, il faut détruire le vieux. Et donc ces 500 millions de tonnes de ferraille ont compté, et on compte toujours, les vendre aux Chinois. Sauf que les Chinois, ils avaient déjà tout acheté. Et ils voulaient plus de la patinette rouillée qu'on leur file en vrac. Donc ils ont demandé à ce que ça soit traité. Qu'à cela ne tienne, on va augmenter les capacités du port de Gennevilliers, mais surtout de Limay, de manière à ce que ça accueille la ferraille du Grand Paris. On va développer aussi l'industrie de retraitement, l'industrie qui va traiter de la ferraille et qui va raffiner la ferraille pour qu'on la renvoie par barge vers la Chine. Aujourd'hui, le transport fluvial, il n'est pas très développé, mais il va se développer. Il va se développer avec d'autres types de compagnies. Il y a CGA, CGM qui est déjà là-dessus. On est en train de créer ce qu'on appelle une chatière au Havre, c'est-à-dire un moyen pour des péniches d'accéder directement à la zone portuaire des gros porte-containers, de manière à ce qu'on ramène directement les boîtes sur cet axe-là. Et ça, donc, faut oublier le petit marinier avec la casquette sur le côté et puis qui joue de l'accordéon en s'arrêtant aux écluses. Hein. Ça va être des grosses compagnies. Déjà, ça a commencé à se modifier. On n'a plus d'artisans mariniers, mais des salariés mariniers. C'est-à-dire aussi des travailleurs mobiles, quand même. Hein. C'est des gens qui partent pour des campagnes d'une semaine. Ils vont naviguer, jour et nuit, et puis on va les lâcher à un endroit, et puis ils vont se reposer à cet endroit-là. Donc voilà. Donc comment un projet qui pourrait n'apparaître que comme logistique devient aussi un projet politique, mais aussi un projet culturel ? Parce qu'en effet, dans cette idée qu'il faut que ça soit tout, il faut aussi que ça soit l'occasion de développer autre chose, donc y compris du tourisme fluvial, de loisirs, y compris une capacité à accéder à des sites préservés, comme les zones naturelles, qui en général sont, quand on regarde, on a fait des cartes, donc c'est assez rigolo, c'est la manière dont les sites naturels épousent avec grâce les zones Céveso, souvent d'ailleurs, comme ça. Voilà. Et de quelle manière, entre deux, il y a toujours une bande qui est l'espace informel où vont se loger les voyageurs, les ouvriers les plus pauvres aussi, qui sont aussi des gens qui vivent en camion, en caravane, etc., dans ces zones-là. Et donc, pour ça, on va utiliser. Tout est bon. Donc, les JO, par exemple, dans la bouche du directeur du port de Gennevilliers, avec qui on a eu l'extrême chance de faire une visite du port, nous explique que, en temps de paix, d'un point de vue logistique, il y a pas mieux que les JO, quoi. Il y a que les JO qui mobilisent autant d'efforts logistiques, voilà. Et donc pour eux, c'est un accélérateur génial où ils vont pouvoir développer plein de choses. Et donc en effet, il y a plein de choses qui se développent sous des formes de ce qu'on appelle des appels à projets innovants. Donc alors tout ça se fait en partenariat public-privé. Donc comment on va justement livrer le plus vite possible par le fleuve, y compris par des petites navettes très rapides, comment on fait du déchargement dans le plein centre de Paris, comment on va réutiliser les vieux canaux, etc. Donc il y a quand même... Ils en ont sous la pédale, là, et je pense qu'ils vont envoyer du lourd là-dessus. Ouais, et puis après, je vais finir sur un truc qui est assez génial. Non, et puis à Rouen, oui, en particulier, donc on a eu Saint-Denis aussi et Rouen, là c'est l'utilisation, c'est le titre de capitale européenne de la culture qui vise à faire avaler, qui vise à travailler à l'acceptation de tout ça. Et qui en effet va redévelopper aussi une appétence pour les bords de Seine. Parce que cette idée, c'est ça, c'est aussi faire accepter cette logistique fluviale comme aussi une partie de notre patrimoine. Donc nous, localement, on nous fait vraiment avaler le fait que notre patrimoine, c'est le patrimoine industriel. Donc la pollution, c'est notre patrimoine. Donc ton grand-père qui a perdu un œil à l'usine, c'est ton patrimoine à toi aussi. Puis c'est cool, faut que t'en sois fier, etc. Donc il y a aussi tout ce travail qui est mis en place. Et après, juste donc c'est comment un même territoire, en définitif, supporte différents récits qui produisent tous la même chose. Donc pour exemple, un des tauliers de capitale européenne de la culture travaille, évidemment tout le monde travaille sur les fleuves en ce moment, c'est la Loire, le parlement de la Loire, on va peut-être avoir un parlement de la Seine, donc j'imagine avec Lubrizol, Hidalgo, etc. Et donc il redéfinit les vallées en parlant de la vallée du textile, la vallée du commerce. La vallée du commerce, c'est en effet la vallée d'une rivière qui débouche à Port-Jérôme-sur-Seine. Port-Jérôme-sur-Seine, c'est la ville de Essau, c'est donc immense, on est loin de la vallée du commerce, quoi. On est vraiment sur de l'hydrocarbure, on est aussi sur la première zone économique spéciale de France. Zone économique spéciale, c'est des zones de dérégulation où ne vont plus s'appliquer le droit fiscal est complètement dérouté, et souvent ailleurs en Europe, puisque c'est plutôt des choses qu'on a expérimentées sur l'Est de l'Europe, c'est aussi des espaces de dérégulation complet où on n'applique même plus le droit du travail, et où en définitive, on va développer, et c'est aussi, à mon avis, un des grands apports de la pensée logistique à la question urbaine, une sorte d'offshorisme terrestre. C'est-à-dire de quelle manière on crée des zones qui sont déconnectées de leur environnement au point qu'elles en sont déconnectées aussi du point de vue légal. Et donc, dernier exemple, et je jure que je m'arrête là. Au Havre, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler du terminal méthanier. Donc voilà, parce que l'axe Seine, c'est un vieil axe. Il y a aussi un pipeline qui relie le Havre, donc les raffineries du Havre et de Port-Jérôme, directement à Roissy-Charles-de-Gaulle. Et on vient de l'apprendre pour les derniers nouveaux mouvements sociaux. En fait, c'est aussi la liaison, l'alimentation de l'OTAN pour l'Europe du Nord, pour notre partie de l'Europe. Donc on a installé un terminal méthanier au Havre. Et là se pose toute une question. C'est-à-dire qu'en effet, ce terminal méthanier, qui est un bateau-usine, en définitive, il est trop un bateau. Alors qu'il va rester à quai pendant 5 ans. Il est trop un bateau pour qu'on lui applique le droit environnemental qu'on applique au secteur industriel, mais il est trop une usine pour qu'on lui applique le droit maritime en termes de réglementation environnementale. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de ce qui se développe et de ce qui va se développer tout du long de ces grands axes, c'est-à-dire ces espèces de zones où il y a un jeu sur le droit, il y a un jeu sur l'exception, et il y a des zones qui vont se développer de cette manière-là, qui vont être détachées et du droit de l'urbanisme, et du droit du travail à terme, et du droit de l'environnement, évidemment. Et ça redéveloppe tout ça dans un très joli vocabulaire. On a entendu parler de banane bleue. On peut parler du croissant cosmétique, qui est aussi un autre axe logistique, qui part grosso modo du Havre et qui va descendre jusqu'à la Roche-Posay, de l'axe Seine. Et que même ces axes eux-mêmes je parle de la concurrence entre les métropoles, même les axes logistiques sont en concurrence. Les principaux acteurs de la logistique disent un corridor logistique, c'est pas fait pour durer. Ça signifie que tous ces efforts, tout ce pognon, cet argent public, etc., cette déstructuration des territoires et des vies des hommes à ces endroits-là, c'est pas fait pour durer. Si un jour, il y a un corridor qui marche mieux, voilà. Et l'exemple qu'il y a eu à Rouen avec le contournement, c'est ça. A priori, c'est deux axes qui sont en concurrence, l'axe Seine et l'axe Europe Nord-Sud, qui normalement ne feront pas le même boulot puisque ça sert Rotterdam. Voilà.
Zoom Écologie, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que l'émission vous a plu. On suivra bien évidemment le dossier de Green Dock hein, en Ile-de-France. Et si vous voulez en savoir plus sur ce projet Axe Seine et la grande métropolisation de Paris jusque Rouen et Le Havre, eh bien on peut réécouter l'émission qu'on avait justement enregistrée il y a un an avec Stanny Cambotte, avec lequel on avait discuté donc de cet Axe Seine. Et voilà, on vous renvoie cette émission pour plus d'informations. On vous souhaite une bonne soirée sur Fréquence Paris Pluriel.